Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast ? Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute.
Tired of ads interrupting your gripping investigations ? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous écoutez, c'est creepy.
Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Aujourd'hui, nouveau featuring, je suis accompagnée de Yop pour cet épisode. Yop est partout, présent dans vos oreilles, vos frigos, vous le connaissez sûrement déjà. Salut Yop.
Et bonsoir.
Comment ça va ?
Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Ça fait longtemps on se disait que moi j'avais pas record, que j'avais pas enregistré quoi que ce soit, donc ça fait plaisir.
C'est vrai. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui débarquent ?
J'étais pas venu une fois déjà dans ton podcast pour me présenter.
Bah si, mais bon, tu sais, j'ai gagné en popularité, il y a des millions et des millions de gens qui arrivent tous les jours, donc...
C'est vrai, avec les featurings de folie, tout ça, ouais. moi, je suis titulaire de deux podcasts, un qui s'appelle Avant d'aller dormir, où je raconte des histoires horrifiques, des histoires frissonnantes, des histoires fascinantes, avec mon compère de toujours, Indigo. Voilà, c'est plutôt stylax.
Et extra stylax.
Exactement, c'est même chouettos, mot de l'année 2023 en avant-première pour ces creepy. Et je suis aussi dans le rendez-vous de l'étrange, où là je raconte souvent des gens, hein, t'es venu
oui.
Quelques fois, deux fois je crois.
Tout à fait.
Et du coup on est sur du mystère, tu vois, sur de l'inexplicable. Et c'est en live sur Twitch.
Et on a fait une émission récemment, donc voilà, il faut aller écouter ça tout de suite. Les liens, ils seront en description, comme d'habitude. Comme ça, vous pouvez aller binge-écouter. Oh, c'était très moche ce mot. Binge-écouter
ouais,
toutes
ça passe.
Les saisons. Bon, bah, on va commencer avec ton histoire, Yop, je pense, qui d'ailleurs, tu m'as dit, est très gore.
Eh ben ouais, justement, ouais, c'est un peu une histoire un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de traiter dans mon podcast. On est bien sur une affaire criminelle, tu vois,
ouais.
Mais il n'y a pas de mystère à proprement parler.
Okay.
Alors, on sait qui a commis le crime, on sait comment il a été commis, on sait qui est la victime.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un tour chez toi parce qu'en fait, elle est bien dégueulasse, tu vois, elle colle bien avec ton podcast.
C'est parfait alors.
Mais tu vois, par contre, il y a quand même une petite part d'inexplicable, selon moi, c'est la psychologie humaine.
Ouais.
Comment peut-on commettre quelque chose comme ça, quoi ? Comment c'est possible humainement de faire ça ? Donc bah, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est une affaire qui n'a pas été extrêmement médiatisée. Je ne suis pas sûr que tu en aies entendu parler, tu me diras si c'est le cas.
Bah, de ce que tu m'en as dit pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Donc,
ça te parle
on verra.
Pas. Bon, bah, très bien.
Ouais.
Et bah, c'est parti ?
C'est parti. Petite musique creepy. Let's go.
L'histoire se passe en décembre 2006. Stacy Wilson est une jeune étudiante de 21 ans en dernière année de médecine. Elle travaille au Milton Cato Memorial Hospital dans l'île Saint-Vincent et les Grenadines. C'est une île d'un peu plus de 100 000 habitants située dans la mer des Caraïbes et membre du Commonwealth. Stacy économisait depuis des années et elle venait enfin de réunir l'argent nécessaire pour faire un voyage à l'étranger. Mais bon, comme tu t'en doutes, le 11 décembre 2006, le destin en a décidé autrement. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais quand même mettre en garde un petit peu là, les auditeurs, parce que là, les deux prochaines minutes, là, ça va vraiment être la partie où je vais décrire l'agression.
Ok.
Ça pourrait peut-être heurter certaines personnes sensibles, j'en sais rien. Enfin, je pense que tes auditeurs sont habitués, mais...
Ils sont habitués, mais bon, voilà.
Voilà, tout le monde est averti. Exactement.
Accrochez-vous à votre canapé.
Accrochez-vous à votre slip.
Votre siège de bus, comme je dis, et puis c'est parti.
C'est parti.
Vas-y.
Donc, Stacy... Donc, on est le 11 décembre 2006. Hein. Stacy venait de terminer son shift à l'hôtel. Alors, elle a entrepris de rentrer chez elle. Elle est montée à bord d'un bus au départ de la station Leeward Bus Terminal. Alors que le bus allait démarrer, un homme est soudainement entré à bord avec un couteau à la main, dont l'étiquette d'ailleurs du prix était encore attachée. Il s'est approché de Stacy et a commencé à la frapper devant les autres passagers horrifiés. Elle a tenté de sortir du bus en grimpant une fenêtre, mais son agresseur a commencé à lui taillader les jambes. Elle a cependant réussi à s'échapper et elle s'est réfugiée sous un autre bus. Mais malheureusement, son agresseur l'a retrouvée et l'a tirée du véhicule en lui agrippant les chevilles avant qu'il lui coupe complètement la main droite. Alors qu'elle était sur le point de se relever pour tenter de fuir à nouveau, il a finalement commencé à la taillader au niveau du cou jusqu'à ce que fatalement sa tête se détache de son corps. Alors là, on était en pleine journée, il y avait des centaines de personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui ont assisté à cette scène d'horreur. Et ça s'est malheureusement pas arrêté là. Le tueur a ramassé la tête coupée pour embrasser le visage de Stacy avant de la rejeter au sol. Ouais, je t'avais prévenu un peu, hein, je t'avais prévenu.
Non, putain.
Après ça, il a laissé tomber son couteau. Il s'est mis à genoux en plaçant ses mains derrière sa tête. La police est arrivée peu après pour arrêter l'homme, qui saluait maintenant la foule, tranquille, tu vois, alors qu'il était escorté par les autorités.
Quelle horreur.
La police... Ah ouais, c'est ouf. Je sais pas ce qui se passait dans sa tête à ce moment-là.
Et pourquoi...
Mais...
Oh, pardon, excuse-moi, vas-y, continue. J'allais dire pourquoi elle, de tout le bus... Enfin bon, vas-y, continue.
Eh ben, on va y arriver, t'inquiète. Ouais, la police a dû ensuite disperser la foule afin de sécuriser la scène de crime... Et du coup, le spectacle qui avait été laissé par l'homme, c'est-à-dire le corps inerte de Stacy, sa tête située 5 mètres plus loin, et sa main est également à 6 mètres du corps. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, là, je suis désolé pour l'horreur de la scène, mais c'est réellement ce qui est arrivé ce jour-là. L'agression a été horrible, et elle s'est passée devant des centaines de témoins, et Stacy avait seulement 21 ans. La police a d'abord supposé que Stacy avait été au mauvais endroit au mauvais moment. Mais lorsqu'ils ont interrogé les témoins traumatisés, il s'est avéré que Stacy était spécifiquement ciblée. Juste avant de l'agresser, l'homme s'était posté à l'avant du bus, près du conducteur, et essayait d'attirer l'attention de la jeune femme. Au bout d'un moment, Stacy s'est déplacée dans un autre siège à l'arrière du bus, en déclarant qu'elle ne souhaitait pas lui parler. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il a déraillé le mec. Et du coup, je vais un peu t'en parler de ce gars-là. C'est un ouvrier de 35 ans, du nom de Shorn Samuel, parfois aussi appelé sous le nom de Abdul Rahim, car il était musulman pratiquant. Shorn Samuel souffrait depuis plus de 10 ans d'une dépendance à la marijuana suite à son expulsion des États-Unis causée par un braquage qu'il avait réalisé en 1996.
Okay.
Il était alors parti vivre dans la petite ville de Vermont, situé sur l'île de Saint-Vincent, et c'est là qu'il a rencontré Stacy pour la première fois, qui était une lointaine cousine à lui.
Mmh.
Donc ils se voyaient régulièrement en fait dans les repas de famille. Mais en fait, Stacy, elle a décidé de couper les ponts en 2005, lorsque Shorn lui a dit qu'il souhaitait l'avoir comme épouse.
Oui.
Donc voilà, ils sont de la même famille déjà, même si ce sont des cousins lointains, quoi. Et ils ont également 14 ans d'écart, pour info.
Ok.
Lorsque Shorn lui a fait part de son intention, Stacy lui a dit tout de suite qu'elle souhaitait plus le voir. J'ai envie de dire normal quoi. on est sur une réaction plutôt saine, tu vois. Mais tu t'en doutes bien, il l'a pas écouté. Il a continué à se présenter à son domicile où elle vivait avec sa mère. Il a continué à la harceler en lui disant qu'il l'aimait, qu'elle devait être son autre moitié. La mère de Stacy, qui s'appelle Emilia Nanton, a également affirmé qu'il avait agressé sexuellement sa fille plutôt. Il y a eu une fois où elle a même dû lui jeter de l'eau de Javel au visage pour le faire partir. Le jour où il a commis son crime, il s'était préalablement rendu à l'hôpital où travaillait Stacy pour la harceler. Garfield Anderson, c'était le médecin en chef, il a indiqué que Shorn attendait dans le couloir du service où Stacy travaillait. Alors, il n'a pas prêté beaucoup d'attention à Shorn jusqu'à ce qu'il le voie essayer d'attirer un peu trop l'attention de Stacy. Alors, du coup, le médecin il a demandé à Stacy si elle le connaissait, et elle a répondu que c'était un cousin éloigné. Sean lui a demandé à ce moment-là s'il pouvait lui parler une minute, et elle lui a répondu qu'elle ne voulait pas, et puis elle est retournée travailler. Lorsqu'elle a quitté le travail, il était toujours là à l'attendre, et lorsqu'elle lui a dit qu'elle voulait être seule, c'est à ce moment-là qu'il est parti acheter le couteau et qu'il est revenu pour la tuer à la station de bus.
Ok.
Donc on a à peu près les détails de la journée, quoi.
Eh ben.
Donc, le lendemain, le 12 décembre, Sean a été soumis à une évaluation mentale par le docteur Amory Morris Patterson. Sean a d'abord hésité à parler sans avocat, mais il a rapidement changé d'avis. Donc, il faut savoir que Sean avait des antécédents de maladie mentale, notamment en 1996, juste avant son expulsion. Il avait été interné contre sa volonté dans un hôpital psychiatrique à Brooklyn, en raison d'un délire de persécution et d'un épisode psychotique aigu. Le 10 janvier 2002, il avait également été admis au centre de santé mentale de Kingston après avoir brisé une fenêtre d'une banque. Alors, à propos de cet incident, il avait affirmé, lors de son évaluation, que les policiers le persécutaient parce qu'ils étaient jaloux et qu'ils pensaient que c'était un agent spécial lié à Oussama Ben Laden parce qu'il était musulman. Et que la seule raison pour laquelle il avait été arrêté et qu'il avait été aussi détenu en prison, c'est simplement à cause de ça.
Okay.
Malgré ce témoignage, le docteur Morris a affirmé qu'il était alerte et sain d'esprit lors de l'entretien. Donc, tu vois, c'est...
Hein ? Attends, répète ! Je crois que j'ai pas compris. T'as dit alerte et sain d'esprit ?
Bah, c'est ça. En fait, tout le truc, c'est de savoir s'il est fou ou sain d'esprit. Parce que, tu vois, ça va changer tout le jugement, quoi.
Ouais, oui, oui.
Mais, tu vois, tu peux très bien être sain d'esprit et te faire passer pour un fou.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui.
Quand tu veux absolument essayer de... Bah, de pas avoir la peine maximale, quoi.
C'est vrai.
Donc, voilà. Si on revient à notre affaire... Ça a été l'un des meurtres les plus choquants de l'histoire de l'île de Saint-Vincent, et ça a indigné tout le pays.
Tu m'étonnes.
Compris bien sûr la communauté musulmane aussi de l'île, qui a rapidement rompu tous les liens avec Sean et qui a présenté ses condoléances à la famille de Stacy. L'opinion publique a été outrée, et avant même la première comparution, elle exigeait qu'il soit pendu publiquement sans aucune forme de procès. Bah, même pas un procès, bam, pendu quoi.
Ok.
Donc... le premier jugement de Sean devant le tribunal a eu lieu le 21 décembre et une foule en colère attendait à l'extérieur du palais de justice l'arrivée de Sean. Lorsqu'il est finalement arrivé, les policiers qui l'escortaient ont dû le protéger car beaucoup essayaient de l'atteindre pour le frapper. Donc ils étaient vraiment chauds, hein, ils étaient vraiment en colère. Hein.
Ouais.
Et concernant son passage devant le tribunal ce jour-là, il a été assez rapide. Il a officiellement été inculpé pour le meurtre et sa demande de libération sous caution a été rejetée. Les procédures judiciaires furent ensuite très longues et aucun verdict n'a été prononcé pendant près de 2 ans après le meurtre. Donc là, on se téléporte au 6 juin 2008, donc on est quasiment 2 ans après. Sean a exigé qu'on lui attribue sa propre cellule d'isolement en raison du harcèlement qu'il subissait de la part de ses codétenus et même des gardiens.
Ah, chouchou.
Il n'était pas très apprécié. Hein. Au tribunal, il faisait tout pour ralentir le procès. Il interrompait les procédures à la moindre occasion. Il demandait à nouveau des documents parce qu'il avait déchiré les siens. Il a exigé plusieurs fois de changer d'avocat parce que le sien l'aurait menacé. Il refusait aussi de garder le silence. Il criait le plus fort qu'il pouvait au point que le tribunal devait avoir des policiers juste à côté de lui en fait pour l'escorter au moment où il se mettait à crier quoi. Il a plaidé non coupable et sa demande d'un nouvel avocat pour le représenter a été accordée. Sa prochaine comparution devant le tribunal a eu lieu le 16 septembre. Et elle a également dû être écourtée à cause de sa conduite et sa tenue vestimentaire non appropriée. Alors, j'ai pas trop eu de détails sur sa tenue vestimentaire, qu'est-ce qu'il portait ce jour-là. Est-ce qu'il était genre juste pas bien, je sais pas...
En slip.
En slip, ouais, j'en sais rien. Mais a priori, il venait quand même de la prison, donc il serait pas sorti comme ça, quoi. Ah, mais si, attends, j'ai la suite. Alors, lorsqu'un officier lui a demandé de remettre bien en place ses vêtements, il l'a juste regardé sans rien dire. Et également refusé d'entrer dans la salle. Donc, l'affaire a donc été ajournée et Sean a été replacé en détention provisoire. Le procès a finalement commencé en octobre et l'accusation a appelé 12 témoins à la barre qui ont tous attesté du comportement de Sean et de la façon dont il a agressé Stacy. Donc, t'imagines, t'as été témoin de ça et 2 ans après, on te force encore à vivre ça et à témoigner.
Ouais,
c'est chaud quand même.
C'est pas ouf.
Alors que les différents témoignages accablaient la défense, Sean, lui, il se bouchait les oreilles avec ses doigts pour ne pas écouter.
Typique.
Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un gamin de 5 ans, le gars.
Ouais, c'est ça. Hein.
Du coup, sa défense, elle a tenté de plaider coupable à cause de la folie, tout simplement. Et elle a présenté au jury les antécédents de maladie mentale et de dépendance au cannabis, déclarant que Shorn avait été plusieurs fois admis de force dans des établissements psychiatriques. Mais ça n'a pas tenu lorsque le docteur Maurice, qui avait fait l'évaluation psychiatrique, a été appelé à la barre. Il a expliqué à quel point Shorn avait été alerte et lucide pendant l'entretien et pendant le contre-interrogatoire. Lorsque l'avocat de la défense lui a demandé s'il était possible que Shorn ait souffert d'un épisode psychotique qui lui aurait fait perdre la raison sur le moment, il a répondu que c'était peu probable. Donc a priori, on est quand même sur du pipeau, tu vois.
Ouais, bah oui.
Le 15 octobre 2008, un jury de 12 membres l'a unanimement déclaré sain d'esprit et a rendu un verdict de culpabilité. Effectivement, vu qu'il est sain d'esprit, s'il est sain d'esprit, ça veut dire qu'il l'a fait de son propre chef et qu'on peut mettre un verdict classique, quoi.
Ouais.
Sa condamnation aurait donc lieu le 18 décembre 2008, une semaine après le deuxième anniversaire du meurtre, une condamnation à mort par pendaison. Lorsque Shorn a entendu cette sanction, il s'en est pris au juge, il a commencé à l'insulter, ils sont ensuite mis à lui lancer des objets, des chaises à travers la salle d'audience. Il y a des policiers forcément qui sont arrivés pour le maîtriser, il a violemment résisté et les agents ont dû utiliser leur arme de poing pour le mettre à terre et lui passer les menottes. Shorn leur a ensuite demandé qu'on lui tire dessus, ce qu'ils ont bien évidemment refusé de faire.
Dommage.
Bien que la mère de Stacy s'attendait à une condamnation, elle n'était pas optimiste quant à la pendaison, car la dernière sur l'île remontait à il y a plus de 13 ans. Donc Shorn, il a fait appel à cette décision, et il a demandé à être représenté par Kay Bacchus Brown, une avocate connue à Saint-Vincent, réputée pour s'occuper des affaires liées aux droits de l'homme. L'appel a été accordé, et l'avocate a accepté de prendre en charge l'affaire, et les nouvelles audiences ont commencé le 31 mai 2012. En 2012, hein. La défense d'aliénation mentale a de nouveau été utilisée. Ils ont appelé le docteur Nigel Eastman, un psychiatre et psychologue américain, qui n'était pas d'accord avec le docteur Maurice. Il a déclaré qu'il souffrait probablement d'un trouble mental au moment du meurtre. L'accusation a répliqué en appelant le docteur Gerald Hutchinson. Là, ils appellent tous les docteurs du monde, là, tu sais, pour voir s'il est mental, s'il est... s'il est sain d'esprit ou pas, quoi. C'est un peu fou.
Ouais.
Donc c'est l'accusation qui a fait appel à ce docteur, mais contre toute attente, il était d'accord avec le psychologue américain et il a convenu qu'il souffrait d'un trouble qui altérait son contrôle mental. Donc l'accusation, ils n'ont pas eu d'autre choix que de conclure un accord avec la défense pour réduire la peine de Shorn à la réclusion à perpétuité. Donc pas de pendaison finalement.
Oh.
Je te sens déçu.
Non, mais sérieux. J'allais te dire tout à l'heure, quand t'as dit condamné à la pendaison, je me suis dit, s'il te plaît, dis-moi que ça ne va pas changer au dernier moment. Eh ben si, voilà.
Non, mais c'est quand même ultra rare. Après, enfin, tu vois, ça remontait il y a plus de 13 ans. C'est le genre de truc que tu fais tout pour éviter, je pense, une pendaison.
Oui, bah oui, mais bon... C'est pas lui qui décide, enfin, tu vois ce que je veux te dire.
Non, c'est pas lui qui décide, mais tu vois, je pense les juges ils soient super enclins, tu vois, à se dire, bah, parce qu'en fait, t'as quand même le sort d'un homme entre tes mains. Tu te dis, il a peut-être fait de la merde, mais tu vois, c'est moi qui décide. Enfin, là, on entre dans un débat, tu sais, un petit peu.
Oui, c'est sûr. Mais après, tu sais, aussi, t'as aussi le sort de la population entre tes mains, parce qu'en général, la réclusion à perpétuité, souvent, ils ressortent. Donc, vu comment ils s'attaquent à des gens comme ça, tu vois, autant.
Ouais, par contre, si un mec comme ça ressort, là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Oui. Tu peux plus avoir confiance au système judiciaire.
C'est le pire, c'est que c'est possible, c'est pour ça. Hein.
Ouais, et puis c'est déjà arrivé, quoi.
Franchement. Enfin bon, on va pas rentrer dans le débat, mais...
En tout cas, la mère de Stacy, elle n'était pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle Shorn était fou. Pour elle, il était sain d'esprit. Mais elle a quand même accepté la décision, car pour elle, l'emprisonnement à perpétuité restait quand même une punition sévère. C'est comme ça que se termine l'affaire. À l'heure actuelle, il purge toujours sa peine. Donc on est à la fin de l'affaire, mais c'est quand même pas tout à fait la fin de l'histoire complète. On va faire une petite avance rapide. On est le 15 avril 2013.
Ouais.
La police de Brooklyn, à New York, a reçu un appel d'un jeune homme de 19 ans, déclarant que sa mère et son beau-père s'étaient battus toute la nuit et que ça avait dégénéré. Que sa mère avait tiré sur son beau-père et que lui, donc le fils, s'était échappé à ce moment-là en sautant par la fenêtre. Des agents de la NYPD sont arrivés et ont trouvé le père, donc Dazen Peters, s'il s'appelait, âgé de 33 ans, mort dans une mare de son propre sang, dans le couloir. Ils sont ensuite entrés dans la chambre et ont trouvé la mère, Rosette, une officier de la NYPD de 43 ans. Alors je le prononce à la française, Rosette, je sais pas comment... Rosette. Donc elle était allongée dans son lit, elle venait de se tirer dessus. Juste à côté, son autre enfant, Dylan Samuel, il était juste âgé d'un an, il était allongé à côté d'elle, il avait également subi une blessure par balle mortelle. La police a trouvé deux notes de suicide expliquant qu'elle avait tué l'enfant pour éviter qu'il se retrouve à la charge de son fils de 19 ans.
Oh.
On sait cependant pas pourquoi elle avait tué son mari. Certains spéculent que ce serait peut-être lié à un cas d'infidélité, mais on a vraiment aucune preuve. Les officiers et collègues de la NYPD ont par la suite déclaré qu'il n'y avait aucun indicateur comme quoi Rosette avait des problèmes. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport entre cette affaire ?
C'est quoi le rapport ?
mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. Eh bien, le nom de famille de Rosette, eh bien, c'est Samuel. Rosette Samuel. C'est la sœur de Sean Samuel qui avait tué Stacy 7 ans plus tôt.
Mon Dieu. Mais, ok. Bah non, mais alors là, il n'y a plus de saint d'esprit. Là,
tu te dis, il y a peut-être un truc dans la famille quand même.
Bah
hein.
Oui. Mais déjà quand tu dis il est saint d'esprit, la mère de la victime pense qu'il est saint d'esprit. Non, il n'est pas saint d'esprit. On ne coupe pas la tête des gens comme ça dans des bus. Franchement.
Bah, sauf si t'es juste un tueur de sang-froid, tu vois.
Ouais, mais enfin, je sais pas comment.
Tu sais, ça arrive à tout le monde un mauvais jour.
Qu'est-ce que ça veut dire, saint d'esprit aussi ? Qu'est-ce qu'on met dans la case ? À un moment, t'es plus saint d'esprit quand tu fais ça, du coup. Enfin,
non,
bref.
C'est vrai. Franchement, je sais pas.
Il y a un truc qui cloche quand même.
Ouais, il y a un truc qui cloche, mais. T'as quand même envie qu'il sorte pas de. Dans tous les cas, t'as envie qu'il reste en prison dans le pire des cas, quoi. Mm. Enfin, dans le meilleur des cas, plutôt.
Ouais. Oui, bah. Oui.
je sais pas, dans le pire ou dans le meilleur. Et du coup, lorsque cette nouvelle a atteint l'île de Saint-Vincent, l'entourage de Emilia, donc Emilia, c'est la mère de Stacy, lui a dit que ses prières avaient été entendues et que c'était la façon dont Dieu vengeait la mort de sa fille. Et là, je vais terminer mon histoire par la sage parole d'Emilia qui a répondu qu'elle n'avait jamais fait de telle prière et que chacun était responsable de ses propres actes. Voilà.
Voilà. Bah oui.
Pas mal, t'en penses quoi ?
Ah ben, c'était hardcore ton histoire. Et en plus, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de me dire mon Dieu, mais il faut vraiment être. Enfin, la force que ça demande de découper une tête avec un couteau.
Je sais pas quel couteau il avait, ouais. C'était un couteau de chasse.
Mais même avec un couteau de chasse, il faut couper toute la colonne. Enfin, comment ça s'appelle, les vertèbres et tout, c'est dur.
Ouais, je sais pas. J'ai jamais essayé personnellement. j'ai pas de retour d'expérience.
Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, il a dû s'acharner. Ça devait être un carnage, mon Dieu.
Ouais, non, mais je pense qu'il y avait quand même un minimum de folie, ouais, comme tu dis.
Bah oui, quand même. En tout cas, s'il n'était pas avant, après il l'était, hein, c'est sûr. Eh ben, j'ai jamais entendu parler de cette histoire.
Ouais, tu connaissais pas, bah tant mieux. Ouais. C'est bizarre, ouais, tu vois ce genre de truc. Après, peut-être que t'as pas envie que ce genre d'histoire soit médiatisée, peut-être aussi. Pour la réputation de l'île ou. Parce qu'elle est un peu touristique, tu vois.
Ouais, puis bah, peut-être que les médias internationaux s'en sont jamais vraiment emparés, tu vois, pour faire le tour du monde, peut-être. Donc, c'est resté local, je pense. Parce que franchement, avec toutes les fois où j'ai tapé histoire creepy sur Google, je ne l'ai jamais vu. Donc,
Ou peut-être que c'est moi qui l'ai inventé de mon esprit tordu.
Eh ben c'était bien creepy, hein, putain. J'aurais pas aimé être là ce jour-là. La pauvre.
Ouais, j'avoue. Je pense, tu vois, la pauvre, mais même aussi, j'aurais pas aimé être là le jour-là en tant que spectateur.
Ah oui,
aussi,
bah, je disais ça justement. Non, ouais, c'est... En plus, c'est dans chaud. Un bus, c'est fermé, tu vois, dans la panique, le temps que le gars, il ouvre la porte, enfin, le conducteur ou la conductrice, elle ouvre la porte. Tu dois être... Ah, ça doit être horrible, tout le monde... Ah, non, je ne vais pas y penser.
Et en pleine journée,
ouais,
quoi, en pleine journée. Elle finissait son shift parce qu'elle avait dû bosser la nuit ou le matin, tu vois.
Mon Dieu.
Enfin, c'est chaud.
Eh bien, merci pour cette histoire.
Eh bien, de rien.
Ah non, elle est ouf.
J'espère que la tienne est un peu moins gore.
La mienne est moins gore, oui. La mienne. En fait, là, on a inversé nos rôles, je crois. Tu nous as trouvé une histoire creepy et dégueulasse à raconter, comme je fais d'habitude.
J'ai fait mon quota
voilà,
pour l'année.
Voilà, c'est ça. Et moi, je t'ai trouvé une histoire mystère. Bah, une histoire du style le rendez-vous de l'étrange. On va parler d'une histoire à moitié non résolue. Et voilà.
Très bien.
Bon, bah c'est parti, alors je commence.
Vas-y.
Alors, donc moi, je vais parler de l'affaire super chelou de Joyce Carol Vincent. Est-ce que tu la connais ?
Pas du tout.
Ça se passe au Royaume-Uni, plus précisément à Londres en 2006, dans un bâtiment de logements sociaux. Enfin, là-bas, ils appellent ça des bedsits. Et ça consiste le plus souvent en un petit studio avec une petite kitchenette. Et des parties communes pour les habitants, ils partagent des salles de bain ou autres, ça dépend. Et ce bâtiment en particulier, il accueillait surtout des personnes victimes de violences domestiques. Et depuis un moment, un très long moment, il y a une odeur dans ce bâtiment qu'on attribue au local poubelle. Mais c'est pas le local poubelle. Jusqu'au jour, justement, où ils vont se rendre compte que ce ne sont pas les poubelles qui sentent autant, quand ils vont faire une découverte très macabre dans un de ces bedsits. Donc ça se passe le 25 janvier 2006. Des huissiers londoniens ont reçu pour ordre de se rendre dans le studio d'une certaine Joyce Carol Vincent, car elle ne paye plus son loyer depuis plus de 2 ans et accumule une dette d'environ 2700 euros. Joyce est censée y vivre seule depuis février 2003. C'est une femme de 38 ans qui travaille en tant qu'agent d'entretien dans des hôtels bon marché et qui essaie de refaire sa vie depuis qu'elle s'est séparée de son compagnon abusif. Mais ce jour-là, quand les huissiers sonnent à sa porte, personne ne répond. Pour vous dire même, les voisins sont surpris qu'on vienne cogner à cette porte car ils pensaient que personne n'habitait là. Ils ne connaissaient pas Joyce, ou seulement de vue. Mais voilà, c'est tout, elle ne leur parlait jamais. Ils la pensaient partie depuis longtemps. Pourtant, les huissiers entendent bien la télé. Il semble y avoir quelqu'un à l'intérieur. La porte est fermée à double tour, mais ils vont quand même parvenir à rentrer de force. Derrière la porte d'entrée se trouve une montagne de courriers qui n'a jamais été ouvert. Ils se rendent vite compte que l'odeur qui flotte dans le bâtiment vient en fait de ce studio et non pas du local à poubelle. La télé est allumée sur la chaîne BBC, le chauffage tourne aussi à plein régime, mais il ne semble y avoir personne. Le sapin de Noël est toujours là, avec à son pied un tas de cadeaux qui n'ont, eux non plus, pas été ouverts. Dans l'évier de la cuisine se trouve un amas de vaisselle sale, et c'est quand ils posent leurs yeux sur le canapé qu'ils comprennent pourquoi ça pue autant. Ils aperçoivent un corps. Mais alors quand je dis un corps, c'est pas elle en train de chill, faire une sieste. Non, là c'est une momie, un squelette même. La chaleur permanente dans le logement a totalement décomposé le corps. Il n'en reste plus que les os.
Oh là là.
Du coup, pour l'identifier, c'était pas facile du tout. Ils ont réussi à l'identifier en comparant les dents du squelette et le sourire sur les photos qu'ils ont trouvées en fouillant dans l'appart.
Et c'était bien elle, du coup ?
Ouais, c'était bien elle. Et là, plusieurs questions se soulèvent forcément devant cette situation plutôt exceptionnelle, je dirais.
J'en ai plein.
Ouais. Quand et comment elle est morte ? Mais aussi... comment ça se fait que personne ne l'ait remarqué ? Une personne aussi jeune, parce que oui, en général, ce genre d'histoire, on en entend tous les ans, enfin, je ne sais pas si tu en as déjà entendu, mais partout dans le monde, on retrouve souvent des personnes âgées isolées, momifiées dans leur appartement depuis 5-6 ans, enfin voilà. Et bah, ça s'explique facilement, hein. C'est des personnes âgées, isolées. Et là, ils ne comprennent pas parce que c'était une femme de 38 ans, elle était employée et il y avait des cadeaux à offrir à Noël à ses proches au pied de ses sapins, enfin de son sapin. C'est bizarre, enfin, c'est chelou. Elle a des proches en tout cas, on ne sait pas qui c'est, mais ça se voit qu'elle a une vie sociale en tout cas. Comment ça se fait aussi que l'électricité et le chauffage fonctionnent toujours depuis tout ce temps ? Alors, déjà, juste en jetant un coup d'œil dans le frigo, il voit que la nourriture date de 2003. Donc ça ferait 3 ans que le corps est en train de décomposer sur le canapé, télé allumée.
Oh, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une seule coupure d'électricité, parce que genre, tu sais, quand t'as une coupure d'électricité, la télé, elle s'éteint et puis elle se rallume pas.
Chut, je vais le dire.
merde, désolé.
3 ans.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Que ces factures ne sont logiquement plus payées parce que elle était pas riche, hein, c'était un logement social. Et même si les factures sont payées et que tout va bien, en 3 ans, comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une seule coupure d'électricité qui aurait stoppé la télé rien qu'une seule fois?
Je me le demande bien.
Bah ouais, je sais pas si ça vous arrive chez vous d'avoir des coupures, mais moi, genre dans mon ancien appartement, ça coupait au moins une fois par mois. Il y avait des soucis dans le quartier quand même, tu vois, mais 3 ans, aucune coupure, c'est long. T'as des coupures chez toi, Yop, de temps en temps?
Ça m'arrive souvent même. Et la question que je me pose aussi, c'est qu'est-ce qui passait à la télé pour qu'elle meure, quoi? Est-ce qu'il y avait un film d'horreur? Ça lui a fait peur, tu vois? Elle a fait un AVC.
Ah ben c'est possible, hein. Tout est possible. Ou sinon c'était.
Un truc trop ennuyant, tu vois. Elle est morte d'ennui.
Regardez Hanouna, hein, peut-être. Ou même que la télé tombe en panne. Mm. C'est bizarre. Ça devait être une Nokia, je pense, parce que là.
Ouais, c'est clair.
Et en plus de ça, la plus grosse question de cette affaire pour moi, comment ça se fait que personne ne semble s'être inquiété de sa mort, qui est vraisemblablement arrivée au moment de Noël, période assez agitée socialement en général, et puis pour elle en l'occurrence, vu qu'il y avait des cadeaux sous le sapin. Dans le cas de Joyce, il faut savoir qu'à cette époque, en 2003, elle travaillait, elle semblait pas si seule que ça, on dit qu'elle avait quelques amis, et elle avait de la famille aussi. Mais apparemment, quand elle s'est installée au refuge, elle a coupé les ponts avec absolument tous les gens qu'elle connaissait, et ils n'ont toujours aucune idée du pourquoi. Ils rapportent qu'elle s'entendait bien avec tout le monde. Sa mère, dont elle était proche, est malheureusement décédée quand elle était plus jeune, mais à part son père avec qui c'était pas la folie, avec tous les autres membres de la famille, il n'y avait pas de problème particulier. Selon eux, bien sûr. Je suis pas en train de dire qu'il y avait forcément un truc bizarre, mais vous savez bien que ça c'est leur version, on n'aura jamais la sienne.
Donc ça veut dire qu'en fait, tous les membres de sa famille pensaient qu'elle avait coupé les ponts comme ça du jour au lendemain et...
Ouais.
Ok.
Ils pensaient qu'elle avait dû s'éloigner d'eux à cause de son ex abusif, qu'elle avait honte des violences domestiques qu'elle subissait et que du coup elle se serait isolée en fait.
Ouais, et puis ils n'ont pas cherché à la retrouver quoi.
Bah attends. Je vais te dire.
Je spoil.
Non, c'est bon, t'inquiète, on est chill. Ils pensent aussi que c'était peut-être pour éviter qu'il n'arrive pas à la retrouver, son ex, par le biais de sa famille. Du coup, ils l'ont laissée tranquille. Ils étaient un peu inquiets, ils pensaient à elle, ils se posaient des questions. Mais voilà, ils ont continué leur vie et ils ont respecté son choix. Il n'y a pas plus d'infos ou de détails concernant sa vie de famille, donc je n'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. J'ai juste lu sur Wikipédia que quelqu'un de lié à l'enquête, j'en déduis que ce sont des enquêteurs, ont dit à propos de sa famille que c'était une gentille famille, très aimante, que des gens très 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 gentils, donc pour eux, rien de suspect par rapport à la famille.
Ouais, à partir du moment où t'es une famille très aimante, tu te soucies un peu si ta fille ou ta sœur ou je sais pas, ou ta nièce elle donne plus de nouvelles, quoi, non ? Je sais pas.
Grave. Après, franchement, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement ? Pour moi, perso, ça veut rien dire du tout. C'était sûrement le cas, hein, mais je mets cette remarque de ces enquêteurs-là dans la même case que les remarques du style...
Ah mais oui, Ted Bundy, je le connaissais, c'était un type de confiance, très correct, tu vois, je crois que c'est le même style. Hein. Bref.
Clairement.
Je prends aussi avec des pincettes le témoignage de ses amis de l'époque qui disent que Joyce était quelqu'un qui changeait souvent de vie, du genre à déménager ou démissionner sur un coup de tête dès que quelque chose ne lui plaisait pas dans son environnement.
Ouais, il se trouve des excuses en fait pour être des mauvais amis, quoi.
Mais arrête de spoiler mon épisode.
Je te connais trop, Vanille, ça y est.
Ils disent qu'une simple dispute avec un de ses collègues et hop, elle déménageait à l'autre bout de la ville. Ils disent aussi, je sais pas comment ils savent ça, qu'elle ne répondait pas au téléphone quand sa sœur appelait, ses sœurs appelaient, et qu'elle n'avait pas son propre cercle d'amis. Elle fréquentait surtout les gens qu'elle rencontrait sur son chemin, des collègues, des colocs, et les amis de ceux-ci qu'on lui présentait. Mmh. Mais pas d'amis vraiment proches à elle. Ils la décrivent sinon comme quelqu'un de très avenante, très attirante, pleine de vie et de projets pour l'avenir, blablabla. Bla bla. Bon, ils sont bien gentils, les amis, de nous dire ça, comme tu dis, mais à entendre ça, on dirait qu'ils se cherchent une excuse à se donner pour ne pas s'être inquiétés de sa soudaine disparition.
Clairement.
Ou alors, ils devaient pas être si amis que ça au final.
Et puis, ils disent qu'ils lui laissaient des messages et tout, machin, sur son répondeur. Mais tu sais, au bout d'un moment, ton répondeur, il est full.
Et, c'est vrai
et
aussi.
Ça, tu dois normalement avoir un message comme quoi le répondeur est rempli et que tu peux plus laisser de message.
Après, je sais pas s'ils laissaient des messages. Ils appelaient en tout cas. Et apparemment, elle décrochait pas son téléphone quand. Enfin, il remarquait que ses sœurs l'appelaient et elle décrochait pas. Du coup, je pense que c'est sûrement le cas. Il devait pas être si proche que ça parce que elle aurait passé un court séjour à l'hôpital, 2 jours, pour traiter un ulcère. Et quand on lui a demandé de remplir un formulaire et d'indiquer le nom et le numéro de téléphone d'un de ses proches à contacter en cas de besoin, elle a écrit le nom de son banquier. Voilà, comme elle connaissait vraiment personne d'autre sur Londres depuis le temps qu'elle y habite. Donc, coup dur pour les amis. Enfin, surtout pour elle. Après, franchement, ça se comprend. Moi-même, quand j'étais à l'étranger et que je venais d'arriver à la banque, on me demandait un contact. Je mettais un peu des gens au pif. Je mettais mon manager, quoi. Je le connaissais à peine, mais voilà, quoi.
Parce qu'elle était étrangère. Elle n'était pas de Londres, à la base. C'est pas l'île Saint-Vincent et les Grenadines, non ?
Ses parents de Grenade.
T'as vu ?
Bah ouais. Ouais, putain. En fait, elle venait de Grenade. Ses parents, ils ont émigré à Londres de Grenade. Apparemment, sa famille, je crois qu'elle est restée là-bas, il me semble. Enfin, en tout cas, ses sœurs étaient là-bas. Après, je suis bête, sa mère, elle est morte. Ouais.
C'est marrant, les similitudes, tu vois. On est en 2006, les deux histoires.
Ouais, c'était pas fait exprès, du coup.
Ouais.
Incroyable coïncidence, je ne pense pas. Après, bon, peut-être qu'elle voulait pas que ses amis soient au courant ou qu'elle voulait pas les déranger. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle avait quand même eu des problèmes de santé assez sérieux à cette époque et qu'elle était déjà toute seule pour gérer ça, même si en vrai, dans sa vie, elle n'était pas censée être toute seule. Ça expliquerait un peu plus la suite funeste. Malheureusement, au niveau de l'autopsie, on va vouloir savoir de quoi elle est morte, forcément. C'est le but de l'autopsie.
Ah, tu peux encore autopsier quelqu'un 3 ans après la momifier.
Il
devait plus rester grand chose quand même.
Ouais, c'est... il devait pas rester grand chose. Mais je pense que l'autopsie, ça se fait au moment que tu veux, non ?
Ouais, mais tu vois, plus t'attends, moins t'as d'indices, quoi.
Bah, en tout cas, ils font une inspection. Bah si, l'autopsie, c'est pour déterminer la cause de la mort, non ?
Bah oui, c'est pour déterminer la cause de la mort. Mais tu sais, quand ça fait 3 ans que t'as un corps momifié devant toi, tu vois...
Ah bah, tu peux écrire cause de la mort...
Décès. Cause de la mort, décès.
Je ne sais pas. Tu sais, des fois, ils écrivent on ne sait pas, mais voilà quoi, faut qu'il y ait un papier
ouais,
officiel.
Oui, bah de toute façon, oui, effectivement, quand t'as un corps, tu fais un minimum d'analyse, quoi.
Donc voilà, l'autopsie, ça donne pas grand-chose. Le corps était vraiment trop décomposé pour relever quoi que ce soit. Ils trouvent pas de traces pouvant évoquer un acte criminel. Donc ils en concluent qu'elle est sûrement morte de cause naturelle. Et ils vont même, je ne sais pas comment, suggérer une crise d'asthme sur des poumons du coup non existants. Ils sont forts. Enfin, je pense qu'il restait plus les poumons...
Il restait pas grand-chose. Hein.
C'est des tissus mous, je crois que c'est parti en premier, hein, ces trucs-là. Ouais. Enfin bon. Ils étudient quand même la piste criminelle, ils fouillent ses affaires, examinent la scène, mais dans l'appartement, ils ne constatent rien de bizarre. La porte était bien fermée à double tour, il n'y a pas de traces de lutte, rien de spécial à déclarer. Surtout que tout était resté dans son jus, donc s'il y avait quelque chose de suspect, logiquement, il l'aurait vu ou le tueur même lui-même, il aurait pu venir nettoyer ou bouger les choses sur la scène. Enfin, il avait le temps, quoi. En 3 ans.
Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs de son ex-petit ami abusif ?
Attends, je vais te le dire un peu plus tard.
Très bien, merci.
Personne n'est rentré en 3 ans, bien qu'il y avait une odeur épouvantable. Et un voisin dit même qu'il apercevait des cafards à la fenêtre de Joyce, mais bon voilà, ça l'a pas plus inquiété que ça. Puis vous imaginez, tout l'hiver et tout l'été, il y a le chauffage, le corps a dû décomposer super vite, tous les jus ont été absorbés par le canapé, ça devait bien sentir.
Il devait faire 40 degrés l'été dans l'appart.
Donc voilà, cafards et tout le reste. Je sais pas pourquoi ils ont fait une fixette sur le local à poubelle. Je pense qu'il devait, il doit bien puer lui aussi en fait de base.
Ouais.
C'est pour ça que. Ouais. Et justement pour ce qui est de la télé, du chauffage et du loyer qui continuent de tourner et qui sont payés quasiment en totalité sur une durée de 3 ans, bah, ils expliquent ça par le fait que avec les aides sociales, son loyer qui était déjà assez bas a toujours été couvert en grande partie. En fait, ça lui payait la moitié jusqu'au moment où elle payait plus l'autre moitié et le loyer a commencé à s'accumuler en impayés. Puis ensuite, les aides ont fini par baisser au fil du temps et c'est là que ça s'est remarqué et que les huissiers ont été appelés pour s'occuper du dossier. Et c'est seulement à ce moment-là que le complexe de logement a décidé de la faire expulser officiellement.
Ouais, ok.
Après, bon, c'est un peu confus pour moi ces explications. Je vois pas trop comment, à part si elle avait de l'argent de côté, après c'est possible. Je vois pas comment les loyers se sont passés si elle devait en payer la moitié et qu'elle la payait plus.
Ouais, je sais pas. Mais t'avais sûrement des virements instantanés, mais au bout d'un moment, tu sais, le solde était trop bas pour.
Ouais.
Mais c'est fou quand même. Elle avait pas de travail, hein, on est d'accord.
Si, elle était agent d'entretien. Dans des hôtels, femme de chambre.
Du coup, quand même, au travail, ils ont bien vu qu'elle venait pas, quoi.
Oh, mais je crois qu'ils en avaient rien à faire. Hein.
Ouais, je vois ça, ouais. C'est ouf. En fait, ouais, tout simplement. Hein.
Bah après, tu sais, dans les tafs, quand tu commences, souvent, quand tu viens plus, ils disent, oh, ça y est, elle a abandonné celle-là, on va en trouver une autre, et puis on s'en fout, quoi, tu vois.
Eh ben, ça se trouve, tu vois, elle a genre une rupture conventionnelle parce qu'elle venait plus, et puis tu vois, elle a eu plein de thunes, et puis ça a pu payer ses loyers.
Bah, peut-être aussi. Hein. Bah, malheureusement, j'ai pas trouvé d'infos concernant son compte en banque pour savoir si effectivement il était chargé un peu ou pas. Mais en tout cas, ça se serait passé comme ça pendant longtemps. Tout s'est payé tout seul sans problème jusqu'à un moment où les paiements sont plus passés. Et puis l'électricité et le chauffage, pareil, ça a été pris en charge parce qu'ils appellent l'oubli de dette. Ce que pour ma part, je ne comprends pas non plus. Hein. Quand tu payes plus, à un moment, on te coupe forcément ton contrat et on te fait une mise en demeure. Et après, peut-être, tu as un oubli de dette sur les sommes dues, si tu le demandes, tu vois, que tu dis t'as pas les moyens ou je sais pas quoi. Ou si les huissiers parviennent pas à récupérer la somme auprès de toi. Mais en aucun cas, tu gardes les services ouverts gratuitement comme ça pendant tout ce temps. Enfin, bizarre.
Ça doit être différent, je pense, de l'autre côté de l'Atlantique.
Ouais, sûrement. Ma théorie, c'est aussi peut-être qu'il y avait peut-être des accords avec le refuge. Genre, c'est évident que c'était des personnes en difficulté. Donc si jamais, via l'adresse, peut-être ils voyaient que c'était des factures, que les factures passaient plus, peut-être ils étaient moins regardants, plus cléments, je sais pas, enfin, tu vois.
Et par Atlantique, je veux bien sûr dire la Manche.
En tout cas, c'est comme ça que ça marche en France, en général. Peut-être qu'en Angleterre, ouais, c'est différent, comme tu dis. Mais je sais pas, hein, parce que quand même, j'y ai pensé, j'ai habité au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Et fallait se déplacer à l'épicerie pour faire le top-up, ça s'appelle. Genre, payer tes recharges d'électricité et de chauffage sur une carte. Tu sais, comme une carte bleue, là, une carte en plastique.
Ah ouais.
Et ensuite, la glisser dans ton compteur pour que ça fonctionne. Tu vois, genre, tu lui dis, mettez-moi 20 euros dessus, tu vois. Puis après, quand il n'y avait plus rien sur la carte, il fallait y retourner.
Donc, et tout le monde faisait ça.
Ouais, tout le monde faisait ça. Enfin, moi, nous, on faisait ça dans la maison dans laquelle, la maison que je louais. Donc, enfin, je sais pas, c'était courant, apparemment. Comme aller payer ses sacs poubelles en même temps, il fallait que tu ailles les payer, tes sacs poubelles. Enfin, payer une taxe de sacs poubelles, c'est pas acheter des sacs poubelles, tu vois ce que je veux dire. Il fallait payer.
Ouais,
bref. Anyways. Après, bon, comme j'ai dit, peut-être que ça se passait pas comme ça dans le Bedsit. Peut-être que c'était une copropriété ou un bail du style où tu t'occupes pas de tes factures. Je sais pas quoi. Tu vois. On n'a pas de détails là-dessus, c'est dommage. Pour expliquer ça, parce que c'est bien, mais c'est à dormir debout leur explication là. Ça s'est payé tout seul, ça s'est pas coupé. Non, moi je crois pas. Puis un autre fait troublant, comme tu nous as dit tout à l'heure, Yop, bah oui, il semble qu'elle avait un nouveau copain à cette époque. Donc c'est aussi très louche que ça l'inquiète pas plus que ça de pas avoir de nouvelles. Par contre, quand même, faut noter que les sœurs de Joyce vont aller à cette époque, quand même, jusqu'à engager un détective privé pour la retrouver.
Et pas très bon, hein.
Il va retrouver son adresse.
Ah,
si,
quand
il va
même
retrouver son adresse. Et elles vont lui envoyer des lettres. Elles vont lui envoyer un bon tas de lettres, une cinquantaine, celles qui seront retrouvées d'ailleurs par terre derrière la porte. Oui, parce qu'en Angleterre, des fois, il n'y a pas de boîte aux lettres. Le courrier, il est glissé dans la fente de la porte et puis il tombe par terre derrière. Enfin, je vous précise, au cas où vous vous demandez qu'est-ce que fout le courrier derrière la porte par terre. Et bah, du coup, comme elle est morte, bah, elle répond plus forcément aux lettres. Et les sœurs vont rester dans le flou jusqu'au
bout. En tant que famille aimante, elles auraient peut-être pu au moins une fois essayer de frapper à la porte. Enfin, je dis ça.
Bah, après, elles habitaient pas en Angleterre, donc c'était un peu difficile. Mais ouais,
oui, c'est vrai. C'est vrai.
Elles ont pas fait le trip. Au moins, elles se sont remuées un petit peu, on va dire. C'est les seules dans toute cette histoire, d'ailleurs, à part les huissiers. Mais bon, c'est pour le fric, hein, bien sûr. C'est pas pour Joyce qui se bouge. Parce que de toute façon, c'est trop tard, là. Donc, sans réponse, elles finissent par abandonner, se disant que Joyce ne veut pas être trouvée et ne veut pas répondre ni aux lettres, ni aux appels. Elles ne vont pas se rendre sur place pour enquêter d'elles-mêmes, comme j'ai dit, parce qu'elles n'habitent tout simplement pas au Royaume-Uni. Donc là, c'est plus difficile. L'affaire a bien entendu fait beaucoup de bruit à Londres et dans tout le pays, et justement, dans les journaux, il n'y a eu aucune photo de Joyce publiée.
De photo morte ou vivante
Les deux.
Ça aurait été un peu, un peu creepy, tu vois, de publier une photo.
Oui, bah, oui, non, bah oui. Non, mais il n'y avait vraiment aucune photo. Ils ont publié une photo genre de son pas de porte, quoi, tu vois. C'est sous. Et en lisant le journal, une femme du nom de Carole Morley s'en étonne. Elle trouve ça injuste qu'il n'y ait pas de photo. C'est déjà une histoire triste où une jeune femme meurt seule dans des conditions inexplicables. Mais en plus, la police et la presse continuent, entre guillemets, de l'invisibiliser en n'affichant pas son portrait, alors qu'ils l'ont logiquement. Ils ont sa photo, vu que c'est comme ça qu'ils l'ont identifié de base. Hein. Vous vous souvenez, avec les dents et le squelette, quoi. Donc, quand elle voit qu'il n'y a aucune photo, elle va s'intéresser à l'affaire. Elle va vouloir glaner plus d'infos, parce que la police et la presse sont un peu radins. Et ça tombe bien, parce que Carole est réalisatrice. Elle va tout mettre en œuvre pour faire un documentaire.
Ooh.
Elle va diffuser des petites annonces dans le journal, sur des bus, où elle demande si quelqu'un connaîtrait une Joyce Vincent. Elle ajoute sa date de naissance et demande à toute personne qui a des infos de la contacter par mail ou par téléphone. Et cette technique va fonctionner. Elle va recevoir plein de messages.
Okay.
Déjà, il y a un homme qui dit être un des ex de Joyce. Il dit qu'il est très étonné d'apprendre qu'elle vivait dans un logement social, que ça lui ressemblait pas du tout parce que elle avait toujours des postes super bien rémunérés et qu'elle manquait pas d'argent. Elle dépensait très peu. Et lui, il l'imaginait plutôt vivre dans une grosse baraque avec plein de jolies choses qui coûtent cher. Il dit, en tout cas, pas dans un bedsit où on se partage les chiottes sur le palier, quoi. Il dit que c'était une très belle femme et il va le lui prouver à Carole en lui donnant la première photo qu'on aura de Joyce à ce moment-là. Enfin, le public, okay. En tout cas, hein, parce que la police a déjà la photo. Et j'ai regardé le documentaire qu'elle a produit, et bon, franchement, je vous le recommande pas. Trois quarts, c'est un peu du okay. vent. Ils ont invité des gens qui la connaissaient, des collègues, une ancienne coloc, ses ex, etc. Ils les ont assis devant une caméra chacun à leur tour pour parler un peu d'elle et de comment ils ont appris cette histoire. Et puis dans le docu, ils ont aussi pris une actrice qui ressemble à Joyce pour jouer des petites scénettes de sa vie selon les témoignages de ces gens-là. Mais bon, à part dire qu'elle nettoyait jamais sa salle de bain parce que c'était une flemmarde et parler en longueur de sa vie de famille, de sa relation compliquée avec son père, il n'y a pas beaucoup de détails par rapport à sa fin de vie et du pourquoi ils n'étaient pas là pour elle. Je parle des gens qui témoignent dans le documentaire, là. Ils sont bien gentils de venir, mais pourquoi vous n'étiez pas là au moment où il fallait, quoi.
C'est un peu la honte. Moi, à leur place, je ne serais même pas allé voir, enfin, montrer ma tête dans le documentaire. Tu vois, t'as fail ta mission de proche, quoi.
Après, ils avaient l'air d'être mal un peu, tu vois. Ils ont
tu m'étonnes.
À part le fait, ils ont parlé des dernières fois qu'elle leur a parlé. Bon, alors, c'est pas glorieux, hein, parce que c'était pour leur demander de dormir sur leur canapé, parce qu'elle avait des problèmes, mais elle voulait pas parler des problèmes, tu vois. Donc, ils savaient qu'elle avait des problèmes, elle a disparu, et puis, bah voilà. Ils reviennent après pour le documentaire, quoi, en gros, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pas glorieux. Un de ses ex dit d'ailleurs qu'elle avait même vendu son ordinateur tellement elle avait besoin d'argent et il en était très étonné. Et je pense que du coup, c'était le moment où elle cherchait une solution pour quitter son ex abusif là. Ouais. Et donc, elle devait sûrement avoir besoin d'argent pour déménager dans le bedsit. Donc voilà, personne l'a aidé. Enfin, je sais plus ce qu'il a dit. Il me semble qu'il a dit qu'il avait dû l'aider ou je sais plus. Franchement, j'ai failli m'endormir.
Donc tu ne recommandes pas ce documentaire, hein, on est d'accord.
Non, je ne recommande pas ce documentaire. Je suis désolée, Carole. Donc voilà, tous les amis interrogés, ils disent qu'ils étaient tous surpris. Oh, choc, surprise. Qu'elle soit femme de ménage, ils avaient l'habitude de l'avoir travaillée pour des grosses entreprises où elle gérait des gros comptes. Et puis là, du jour au lendemain, ils la voyaient partir au travail en tenue de femme de ménage et ils n'ont pas compris. Enfin, je sais pas. En fait, dans ce documentaire, ils se foutent la honte, en vrai, j'avoue.
Ouais, non, mais s'ils s'intéressaient un peu à elle, peut-être qu'ils auraient compris, tu vois.
Ouais, bah ouais, c'est ça. Mais leur excuse, c'était, faut pas s'embrouiller avec elle parce qu'après, elle va déménager à l'autre bout de la ville, quoi. Tu vois. Puis il semble qu'elle a pas tenu à leur expliquer non plus. Donc, ils savaient pas trop ce qui se passait dans sa vie, mais ils savaient quand même qu'elle traversait quelque chose. Voilà. Et puis, j'imagine aussi que les cadeaux qu'elle avait emballés au pied du sapin, ils étaient possiblement pour eux parce qu'on dirait qu'il y avait personne d'autre dans sa vie à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Il y avait pas de nom écrit dessus, hein, donc
on saura jamais. Je voulais te demander ça.
Non, il y avait pas de nom, on sait pas pour qui c'était. Je pense pas que c'était pour sa famille ou ses sœurs, parce que ça voudrait dire que, enfin, fallait qu'elle les envoie par la poste plutôt qu'il les mette au pied de son sapin. Donc voilà. Mais bon, c'est dingue quand même parce que ça montre bien que elle s'attendait pas à mourir d'un coup.
Ouais.
Personne le suspectait non plus. Elle avait ses cadeaux de prêt, elle devait sûrement être invitée quelque part pour Noël. Peut-être même que la fête, elle aurait dû se faire chez elle, je sais pas, peut-être. Mais alors pourquoi personne, aucun de ses amis ou collègues ne s'est inquiété de ne pas la voir pour Noël et de ne pas recevoir leurs cadeaux? C'est incroyable.
C'est ça. Moi, on m'offre pas de cadeaux, j'appelle les flics.
Ou tu l'appelles en mode juste pour te plaindre. Bah, mon cadeau, mon cadeau quand même. Enfin bref. Puis elle avait son nouveau copain aussi à l'époque. Comment c'est possible de rater que ta meuf elle vient de crever sur son canapé? Enfin, pardon, mais quand même, un effort, quoi.
C'est n'importe quoi. C'est assez ouf. En vrai, ton histoire, elle est ultra triste.
Mais grave.
Elle est ultra triste. Ton histoire, elle est triste.
Ouais, mais ça reste quand même un mystère. Peut-être qu'il y a eu un meurtre. Peut-être qu'elle a été retrouvée.
Le meurtre, tu ne crois pas, par contre.
Ah bah attends, peut-être qu'il y a eu un meurtre, peut-être qu'elle a été retrouvée par son ex ou tuée par son nouveau. C'est quand même étrange de pas retrouver son identité d'ailleurs à son mec.
Le meurtre, je t'avoue que j'y crois pas parce que tu vois la porte elle était fermée à double tour de l'intérieur de toute façon, non?
Écoute, on va en parler juste après.
D'accord, très bien. Encore une fois.
Non mais je pense à tout, t'as jamais écouté mon podcast ou quoi?
Jamais, c'est pas une seule fois.
C'est quand même étrange de pas retrouver son identité à celui-là, son mec là, son nouveau mec, parce que bah il y avait des téléphones portables à l'époque. Elle devait lui envoyer des SMS ou des mails sinon. Enfin, ouais. Normalement, il devrait y avoir une trace de lui quelque part, ne serait-ce qu'une trace de pneu même dans ses chiottes. Enfin, je sais pas. Mais après, peut-être qu'elle cachait aussi quelque chose. Peut-être que, tu vois. Après, encore une fois, j'ai pas les détails de la scène, enfin de l'appartement. Genre, ils disent que la porte est fermée à double tour, ok. Mais est-ce qu'il y a vraiment les clés sur la porte ou elles ont été retrouvées quelque part dans l'appart? Ouais. Parce que si elles sont sur la porte, ok, ça prouve que c'est elle qui l'a fermée. Et ça laisse moins la place à un meurtre. Mais si les clés, par exemple, elles sont retrouvées dans sa chambre, bah n'importe qui avait un double, il a pu rentrer et refermer derrière lui avant de partir.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Voilà. Ouais. Ça, quand après, même, ça change tout à l'affaire quand même. Mais bon, ça serait précisé, je pense. La police nous l'aurait dit.
Ouais, et puis à un moment donné, je sais pas, ils ont fait une autopsie. Je veux bien croire que tu vois, le corps était momifié. Mais genre, s'il y a des coups de couteau, tu le vois quand même.
Voilà. Oui, ouais, mais il y a plein de manières de tuer
aussi,
tu vois.
Oui, il y a plein de manières. Ça peut, ouais,
si t'étrangles quelqu'un, ça va pas se voir sur son squelette, enfin sur son cou, tu vois, je pense.
C'est sûr.
Bizarre. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a quand même une grande part de possibilité pour un meurtre. Parce que, surtout dans ses conditions de vie, elle a dû changer de vie rapidement, se cacher d'un ex, couper les ponts avec sa famille. Sûrement à cause de lui, en plus, elle cache beaucoup d'infos à ses amis, il semble. Enfin, elle survit un peu, tu vois ce que je veux dire. Et comme par hasard, c'est à cette période de sa vie qu'elle meurt, dans d'étranges circonstances.
Je pense qu'elle avait quand même une histoire un peu chelou, avec sûrement, bah, du coup, son ex abusif, qui devait quand même lui mener à la vie dure. Donc, il y a peut-être quelque chose... Mais après, tu disais aussi qu'elle avait des petits problèmes de santé. Bon, après, normalement, un ulcère, c'est pas trop grave, tu vois.
Après, bon, y a, dans le documentaire, il y a un de ses ex qui dit oui, elle avait des crises d'asthme. Mais c'est vrai qu'elle devait aller voir le docteur, mais elle se faisait pas soigner. Enfin, je veux bien, mais apparemment, elle avait une ventoline. Enfin, je sais pas comment dire, parce que moi aussi, je fais de l'asthme. Je dois aller chez le docteur depuis 5 ans. Mais voilà quoi, si, peut-être qu'on va me retrouver morte devant mon micro, mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas, c'est un peu... Il dit ça comme si c'était ça, mais non,
Si tu fais une crise d'asthme, tu meurs pas devant ton micro, tu meurs par terre en essayant de te débattre ou je sais pas trop quoi, tu vois. T'es pas posé sur ton canapé.
Ouais.
Je sais pas.
Bah, je sais pas. Ouais, c'est vrai, si, quand tu fais une crise, je sais pas. Je saurais pas, écoute, quand le moment viendra, je te dirai, je t'appellerai. Non, je sais pas. Moi, je trouve que c'est une période où elle a l'air d'être super vulnérable. Donc, c'est quand même gros que ça lui arrive pile à ce moment-là, je trouve. C'est suspect. Tu vois,
ouais, il y a eu un gros shift dans sa vie où, a priori, elle était assez aisée et tout. Et puis, tout d'un coup, elle se retrouve à moitié à la rue, enfin, à faire du ménage, des trucs comme ça. Des trucs qui, normalement, selon sa famille, selon ses proches, c'était pas elle, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et ben, il y a un degré de mystère assez fou, quand même, hein.
En tout cas, si c'est une affaire criminelle, bah, elle sera sûrement jamais résolue, à part si le tueur se dénonce un jour. Un peu comme dans un de tes épisodes, Diop, où il y a un tueur là, qui avoue avoir tué une femme. Je sais plus si tu t'en rappelles, des décennies plus tard, il écrit une lettre et tout.
Ah oui, bah, y en a eu plusieurs, ça. Bah. Ça, j'y crois pas trop, c'est qu'on 10 ans plus tard, t'écris une lettre. Mais j'avais aussi un des épisodes où c'était au Japon. C'était un mec qui avait été inculpé alors que c'était pas lui, et du coup t'as le vrai tueur qui a dit bah non c'est moi.
Oui c'est vrai,
ça c'est pas mal,
ça, c'était ouf. Non, c'était ouf. Non, moi je pensais plutôt c'est à celle de la lettre, le gars qui disait oui je sais plus, ça datait un peu des années, je sais plus combien.
C'était la fille qui était morte dans un métro.
Voilà, c'est ça, c'est ça exactement. Bah, ça m'a fait penser à ça,
ouais, un petit peu.
Et
ouais.
Et voilà. Mais tu sais, t'as dit, moi j'y crois pas trop aux gens qui écrivent des lettres et tout. Mais tu sais que l'autre jour j'ai vu un truc sur TikTok, ça disait, vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui sur leur lit de mort, dans les EHPAD, etc., qui nous avouent des meurtres.
Ah ouais.
Et tout. Et ouais. Parce qu'en fait, ils ont peur de.
Le jugement dernier.
Non, mais même pas. Enfin, oui, de ça, mais en fait, bon, ça, on va parler un peu d'ésotérisme. En gros, ils disent que, tu sais, les personnes âgées, avant de mourir, souvent, elles voient des proches. juste avant de mourir, hein, tu vois. Et il y en a justement qui voient les personnes que, à qui elles ont, bah, qu'elles ont tué, tu vois, ou elles ont fait des trucs pas nets. Et du coup, ben, elles le disent aux autres, enfin, elles le disent aux, à leurs infirmières ou quoi. Et voilà, il y avait une... Oh mon Dieu, il faudrait que je la raconte cette histoire, mais je ne me souviens plus très bien. Bah voilà, c'était l'histoire de Joyce, vraiment triste.
Vraiment très triste, ouais. Franchement, c'est compliqué, tu vois, de finir sa vie comme ça.
Et donc, du coup, toi, tu ne penses pas du tout à un meurtre?
Non, franchement, je ne pense pas... Après, tout est possible, hein. tout est possible, mais tu vois, je voyais bien... Elle était allongée sur le canapé en train de regarder sa télé. Elle a fait une crise d'asthme. Elle a fait, je sais pas, un AVC ou un truc comme ça. Ou alors, je sais pas, il y a un film d'horreur, un truc qui lui a fait peur. J'en sais rien, tu vois. Mais je serais d'ailleurs très curieux de savoir quel programme elle regardait à ce moment-là.
Ouais. Bah, écoute, on saura jamais. J'espère que nos deux histoires vous auront plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos théories pour mon affaire sur Joyce. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez aussi, si c'est un meurtre ou si c'était un accident. Et puis, merci Yop pour ton histoire. C'était creepy.
Bah ouais, c'était cool à faire. Et puis moi, ça me change de ce que je fais habituellement. Donc, j'ai bien aimé. C'était chouette.
Donc allez écouter Le Rendez-vous de l'étrange pour retrouver Yop et Avant d'aller dormir et ses 62 autres podcasts que vous retrouverez sur son site.
Yop.ninja, il y a tous mes liens.
Yop.ninja, il y a tous ses liens. Voilà.
Exactement.
Let's go, allez checker ça. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine sur Patreon pour une nouvelle histoire bien
creepy.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
T'es encore là? Envie d'écouter plus d'épisodes de C'est Creepy? Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend.
Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balles à blanc, en fait.
Ok.
C'est pour faire peur.
Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce qu'on s'appelle. Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier, au bout de sa vie. Ou plutôt, au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie. Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que, bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant.
Quelle indignité.
Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Ed Gein, mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple. Tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite pour plus d'histoires bien...
creepy.